Vous écoutez France Culture.
Anne Lorchouin a signé le journal et sera de retour à 9h. Bonjour à toutes et à tous.
Et moi je dis que quand un journaliste il n'en sait pas plus que ça, il devrait être autorisé à fermer sa gueule.
Le problème, c'est de se confirmer les sources, de les vérifier. Moi, j'avais un maître, c'était Jacques de Rogy, qui disait « La source unique, c'est la fin des haricots ».
Il faut absolument que le secret des sources soit protégé correctement en France, c'est-à-dire qu'il soit totalement protégé.
Évidemment que nous pouvons être l'objet de manipulations. Évidemment que l'anonymat peut poser problème.
Moi, je ne dis pas que vous avez tort, je dis que j'ai l'impression qu'il vous manque quand même un chouïa de sources. Voilà, c'est ça qui me gêne.
Vincent Abouchard, Mathias Mégy et Vincent René occupent ce matin le poste de pilotage et vous, toutes et tous, êtes au poste de commentaires sur franceculture.fr et sur France Culture. C'est le 119e numéro du Secret des Sources. Samedi dernier, nous nous interrogions ici même sur l'absence du Caucase et de la Tchétchénie dans les médias malgré les JO de Sotchi. Cette semaine, impossible de ne pas s'interroger à l'inverse sur l'omniprésence médiatique du voisin, l'Ukraine. Après les affrontements très violents de mercredi et de jeudi, un accord encore fragile prévoyant notamment une présidentielle anticipée a été obtenu dans ce pays de 46 millions d'habitants, souvent présenté comme coupé en deux entre pro-russes et pro-européens. Question, les médias occidentaux ont-ils été simplistes et partisans, autrement dit pro-manifestants, ou ont-ils su éviter cet écueil? Avec nous, en duplex de Kiev, le correspondant de RFI et de Libération, Sébastien Gobert, bonjour.
Bonjour.
Et en duplex de Moscou, la correspondante du Monde en Russie, Marie Jégot, bonjour également.
Bonjour.
Ici en studio, Sylvain Stibal, rédacteur en chef photo à l'AFP, et Gaël De Santis, responsable des pages Europe à l'Humanité. Bienvenue, bonjour.
Bonjour.
Et avec nous enfin, le sociologue des médias Jean-Marie Charon et l'homme des images et du multimédia sur France Culture, Éric Chavroux. Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Bienvenue à toutes et à tous dans les coulisses de l'information.
Manifestants et secouristes sous les balles de la police ukrainienne. 100 mètres plus loin, les opposants protègent un journaliste blessé par balle. C'est la riposte des forces de l'ordre face à la dernière offensive des insurgés. Nous étions en tournage.
À l'image de ce sujet signé Benoît Cristal et Guillaume Aguerre en ouverture de 20h de TF1 jeudi soir, les médias, depuis le début de la crise ukrainienne, ont multiplié les reportages côté manifestants dans la place Maïdan. Évidemment, au vu des événements de jeudi matin en particulier, qui ont vu des dizaines de manifestants mourir, une forme de solidarité légitime s'installe. Mais ce parti pris, du moins cette surreprésentation des sujets auprès des rebelles, sont largement antérieurs à la répression et au massacre de cette semaine. Sébastien Gobert, vous qui êtes installé en Ukraine, on va commencer par vous, qui connaissez bien cette histoire depuis le début. Est-ce qu'il y a une forme de sympathie, d'élan naturel des journalistes occidentaux vers les manifestants, ou bien est-ce simplement parce que le sujet est en quelque sorte facile d'accès sur la place Maïdan?
Ouais, écoutez, il y a, je pense, un peu des deux, hein, vous savez. Bon, d'une part, il est bien clair que le sujet est plus facile d'accès du côté des protestataires, puisque entrer sur la place Maïdan, parler aux protestataires, et réaliser des interviews et collecter les informations, et bien évidemment, du côté des protestataires, du côté de l'opposition, vous savez que c'est toujours beaucoup plus facile que du côté du gouvernement. Le côté du gouvernement a présenté une face plutôt fermée dans cette affaire, en particulier en opposition par rapport aux protestataires. Par exemple, aux abords du Parlement, eh bien, il y a une espèce de camp de ce qu'on appelle un anti-Euromaïdan qui a été occupé par des protestataires pro-gouvernementaux pendant plusieurs semaines, eh bien, il y a plusieurs journalistes qui se sont baladés dans ce camp, qui ont tenté de parler à beaucoup de personnes. Et ils se sont de nombreuses fois, et moi-même d'ailleurs, heurtés à des refus, heurtés à des personnes qui ne voulaient pas parler. Et il y a plusieurs journalistes qui se sont même fait agresser, dérober leur carte d'accréditation ou encore leur tablette iPad.
Donc ça veut dire que tout simplement l'accès aux sources, comme on dit en termes journalistiques, est plus facile du côté des rebelles, c'est ça?
Oui. Il y a vraiment une question de contingence, de contingence du journalisme. Tout simplement, c'est vrai que l'accès aux sources est beaucoup plus facile du côté des protestataires. Après, il y a aussi une deuxième chose. Et moi, j'habite en Ukraine depuis 3 ans et je dois avouer que il est difficile d'accorder une quelconque crédibilité à beaucoup de déclarations du gouvernement de Viktor Yanukovych. Ça, c'est quelque chose que je peux observer depuis que je travaille comme journaliste ici. Le gouvernement pratique un double discours sur énormément de sujets. Et en fait, il y a beaucoup de déclarations qui sont faites et qui ne sont pas suivies d'actes ou l'inverse. Et donc, à partir de là, si vous voulez, le côté des protestataires est non seulement plus facile d'accès, mais aussi d'un autre crédible.
C'est plus crédible du côté des protestataires que du côté du discours du gouvernement. Je traduis parce que c'est un tout petit peu haché la ligne avec Kiev. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, Sébastien Gobert, une forme, on va dire, d'embarras du reporter européen qui se trouve sur un terrain de reportage où l'un des deux côtés lui dit « je suis de votre côté, enfin vive les Européens ». Est-ce qu'on n'est pas forcément tenté d'être en empathie avec cela ?
Alors bon, déjà ce côté « vive les Européens », vous savez que c'était une des premières phases du mouvement de la fin novembre jusqu'à environ... le début décembre, mi-décembre maximum. Maintenant, ce n'est plus du tout « je suis de votre côté, je suis avec les Européens », mais je suis contre Viktor Yanukovych, contre son gouvernement, contre les violences policières, contre les abus du système judiciaire, contre la corruption. Et si vous voulez, ça c'est quelque chose pour lequel beaucoup de journalistes ont une certaine empathie, une population qui lutte pour le respect de ses droits fondamentaux, pour le respect de ses droits civiques. Eh bien, c'est en effet quelque chose, et moi le premier, quelque chose qui me touche beaucoup. Moi, je ne m'en suis pas caché, hein, je n'ai pas de positionnement idéologique dans mon travail, mais je considère qu'un journalisme efficace, c'est un journalisme qui évolue dans un système institutionnel où les institutions, le gouvernement est responsable et a une certaine responsabilité vis-à-vis de ses actions. Et dans les 3 ans où j'ai habité en Ukraine, et en particulier ces 3 derniers mois, il est vraiment apparu clair que le gouvernement aucun sens des responsabilités sur beaucoup de choses qu'il faisait.
Je continue de traduire parce que ça coupe un petit peu, c'est un petit peu haché, hein, que le gouvernement n'a aucun sens des responsabilités, c'était ce que vous disiez. Vu d'ici, Gaël Le Sentis, l'Humanité, Sylvain Estival, l'AFP, est-ce que vous avez cette sensation-là, on va parler des images après avec vous, bien sûr, Sylvain Estival, mais qu'il y a une forme d'empathie naturelle vis-à-vis des manifestants de la part des reporters qui sont sur place. Est-ce que vous avez ce sentiment, vu d'ici, Gaël Le Sentis?
Bien sûr qu'il y a une certaine empathie. Et aussi parce qu'au début du mouvement, il y avait quand même une aspiration à une Ukraine plus démocratique, une critique des affaires de corruption qui existent dans ce pays, mais qui ne touche pas que le camp du président Yanukovych. Donc on comprend cette empathie. Après, c'est peut-être...
Il faut savoir la dépasser un peu pour être un peu plus analytique. C'est ça que vous voulez dire aussi.
Disons qu'il y a les manifestants d'un côté. Après, il y a l'opposition où il y a une sorte d'héroïsation de Klitschko, le boxeur, leader de Oudar. Un certain romantisme autour de l'opposition ces dernières années, des différents partis dits pro-européens qui ont d'ailleurs toujours eu des liens, y compris avec Moscou. Et là, c'est peut-être là que le bas blesse, c'est il n'y a pas eu un regard assez critique peut-être sur ce qu'est cette opposition.
On va en reparler. Sylvain Estibal, sur un parti pris, enfin du moins une partialité, une empathie pour les manifestants.
Peut-être qu'au début, il y avait effectivement une empathie. Après, on a quand même assez vite vu qu'il y avait des armes du côté des protestants, des protestataires qui avaient des boucliers, des casques. Donc ça a quand même mis un doute. Et puis, on en a appris qu'il y avait l'extrême droite qui était présente, enfin, je crois aussi l'extrême gauche. Donc, on a quand même assez vite vu qu'il y avait aussi... c'était pas aussi clair qu'on imaginait au début, aussi romantique qu'on l'imaginait.
Vu de Moscou, cette fois, Marie Jégo du Monde à Moscou. Qu'est-ce qu'on voit à la télévision russe? Est-ce qu'on voit les manifestants autant qu'on peut les voir sur les télévisions occidentales?
Alors on les voit surtout quand par hasard ils ont une arme, alors là on ne les rate pas. Et je dois dire que la description qui est faite par les chaînes de télévision russe est absolument totalement monocorde, c'est-à-dire ce sont des terroristes, des nazis, des auteurs de pogroms, des bandes armées. C'est à l'envi décrit de cette façon et uniquement de cette façon. Si vous voulez, dans la Russie de Poutine, aujourd'hui, on n'a pas d'autres produits en magasin. On est obligé de vendre cette espèce de parano, cette espèce de regard complètement biaisé. C'est même plus de l'information. Mais voilà, c'est ça. Le problème, c'est On n'a plus que ça en magasin, dans une Russie qui est un peu en ce moment contrainte parce que l'économie, la croissance économique n'est pas au rendez-vous. Dans cette Russie où Poutine a entamé son troisième mandat, donc il y a une forme de stagnation politique et économique, voilà, il est important de rejouer sur les peurs, les terreurs, la paranoïa, les espions partout.
Marie Jégot à Moscou et Sébastien Gobert à Kiev, vous restez évidemment en ligne avec nous. L'autre fait marquant de la couverture médiatique des événements en Ukraine ces derniers jours, c'est l'impact de la violence, j'allais même dire son omniprésence. Là, par exemple, c'était jeudi matin, scène d'affrontement, de panique, aussi tournée par le technicien de reportage de Radio France, Eric Damaggio. Ça, c'est la violence telle qu'on peut vous la faire ressentir en radio. Mais cette violence, elle s'est surtout retranscrite en images, des images omniprésentes, saisissantes, spectaculaires, en télévision comme en presse écrite. Sylvain Stibal, vous qui êtes rédacteur en chef photo à l'AFP, c'est vrai qu'on est saisi par ces images, que ce sont elles finalement qui dominent, qui écrasent tout en termes médiatiques. Racontez-nous comment l'AFP photo travaille sur place.
Donc sur place, on a deux staffeurs réguliers à Kiev. On a renforcé l'équipe avec deux étrangers, hein, de Turquie et un de Grèce, qui sont un peu habitués aux manifestations violentes, qui sont venus avec un équipement, cette fois, non pas juste de manifestation, mais un équipement de guerre. Donc on a fait venir des casques lourds, des gilets pare-balles. Donc ces quatre photographes-là se relaient en permanence sur la place de l'Indépendance.
Donc ils sont tous sur la place Maïdan.
Oui, ils sont à l'hôtel qui est vraiment sur la place. Donc de là, ils sont vraiment tout proches. Ils peuvent transmettre leurs photos depuis l'hôtel. Et puis, on a aussi rajouté des pigistes, un réseau de pigistes, donc soit étrangers, parce qu'il y a quelques photographes étrangers, il y a notamment deux Italiens qui travaillent avec nous en ce moment, et puis des Ukrainiens qui sont occasionnels et qui viennent aussi nous proposer des photos.
Et donc quand vous avez vu arriver ces photos, vous les avez vu arriver forcément avant que tout le monde, par définition, sur votre bureau, mardi, mercredi, jeudi, vous vous êtes dit tout de suite « Oula !»
Ah oui, parce que c'est vrai que c'est des images, on va dire, inédites, on n'a jamais vu un conflit comme ça, enfin, je n'ai pas de référence finalement, je pense que la Bosnie, ce n'était pas comme ça non plus, c'est vraiment cette image charbonneuse, ces flammes, ces cocktails Molotov, on a des lance-pierres, il y a des engins explosifs de côté manifestant, enfin, c'est très très noir, ils ont fait brûler des pneus, enfin, c'est des images apocalyptiques qu'on n'a pas vu, en tout cas en Europe, je pense, je n'ai pas le souvenir d'avoir vu des images pareilles. Et c'est vrai qu'on vient de conflits plutôt au Moyen-Orient, et là, d'un seul coup, on n'est plus dans la lumière, on est dans une noirceur terrible qui est très très forte au niveau de l'image. Et puis quand, en plus, on sait que c'est finalement... C'est un résumé un peu, après ce qu'on vient de dire, c'est un résumé un peu bref, mais enfin, c'est un peu pour rentrer dans l'Europe dans un sens, et ça nous étonne d'autant plus que ces images qui se paraissent d'un autre temps presque, soient finalement pour une cause qui nous parle à nous en direct, en tant qu'Européens.
Il y a beaucoup, beaucoup de photos, enfin je ne sais pas combien vous en recevez chaque jour, par exemple.
Donc sur les deux derniers jours, on a envoyé à peu près 500 photos, on a dû recevoir 600. Et voilà, on fait un tri là-dedans et on envoie les photos les plus fortes. On a eu peu d'images qu'on a censurées. On en a eu deux aujourd'hui qu'on a censurées d'un cadavre carbonisé dans un bâtiment. Mais bon, en gros, on essaie de donner tout ce qui est acceptable pour le lecteur.
Alors, on va s'arrêter sur quelques-unes de ces images. J'en ai quelques-unes là sur le bureau du studio, hein, avec évidemment les visages ensanglantés. Celle-là, elle a fait la une du Monde, je crois. Les hommes casqués qui descendent les escaliers, ça fait penser un peu au cuirassé Potemkin. Enfin bon, beaucoup de gens casqués. Et alors, beaucoup, beaucoup, Éric Chavron, vous qui travaillez sur les images dans Le Secret des Sources chaque semaine, beaucoup d'images de flammes. Ça, c'est le fait marquant, sans doute, de toutes ces images au cours de la semaine.
Du feu, c'est l'élément qui revient constamment. C'est un élément qu'on avait déjà vu en décembre, mais il avait servi à réchauffer les manifestants, pour le coup. Là, cette semaine, ça a tout embrasé. On n'arrive même plus à dénombrer les images de Kiev en flammes. Alors, ça sert sûrement les photojournalistes aussi, parce que de nuit, c'est absolument impressionnant. Et les photojournalistes sur place le savent, évidemment. Et ce sont ces visions crépusculaires, enflammées, qui d'abord...
Destructeurs et purificateurs en même temps. Enfin, toute la symbolique du feu, hein, c'est pas rien.
D'abord attirent nos regards comme ce mur de feu dressé par les contestataires. C'est une photo de l'AFP, d'ailleurs, d'où se détache seulement l'ombre d'un policier qui est sur le point de tirer. Et puis le feu aussi jusque sur le corps d'un contestataire, dans son cou, sa tête, il est en train de fuir une tente, sa tente qui brûle. Ce jeu de flammes aussi, il y a comme un écho tragique, par rapport à une autre flamme qui brûle encore à Sotchi. Sotchi, où là, on retrouve le noir, où là, c'est le noir des brassards voulus par les athlètes ukrainiens qui a fait polémique. Et ce noir renvoie à la fois aux événements, mais aussi à la prégnance, à cette masse de fumée constante qui prend, qui saisit toutes ces images. Alors, à feu et à sang, vous le disiez, Jean-Marc, il y a cette série d'images de l'AFP qui a beaucoup marqué, qui a été repris par énormément de quotidiens dans le monde.
Ce couple-là avec le visage ensanglanté, hein, une du Monde au milieu de semaine.
Et qui fait penser à un attentat terroriste.
Ça fait penser aux attentats de Londres, ouais. Photo qui avait fait la une un peu du même style.
Tous les deux, ils ont le regard perdu, ils sont hébétés, le visage couvert de sang. Et c'est en regardant finalement la photo qui a été publiée en une du Monde qu'on se rend compte que ça n'est évidemment absolument pas ça, puisqu'on voit sur la gauche comme la force obscure. Un policier de dos en noir qui les regarde. Et...
Darth Vador un peu, ça, voilà. Un peu ça. En termes d'image, il y a un autre phénomène intéressant cette semaine, c'est l'apparition sur Internet de fils live continus qui fournissent des images tout le temps de la place Maïdan. Sauf que ça pose un petit peu question, parce que là, comme toujours, le robinet image, on n'en connaît pas tout à fait l'origine, donc il y a des problèmes de vérification des images et des informations.
Alors c'est un phénomène absolument incroyable, ça s'est évidemment beaucoup développé avec les progrès technologiques. Mardi soir par exemple, il y avait plus de 250 000 personnes qui se sont connectées à Espresso TV, c'est une chaîne en ligne ukrainienne pro-européenne qui est devenue un des principaux observatoires de la place Maïdan. Dans un article du Nouvel Observateur qu'on mettra en lien de notre page, vous découvrirez aussi une jeune chaîne militante qui s'appelle Ukrstream. Elle fonctionne grâce aux dons des internautes et avec des serveurs qui sont en Allemagne et aux Pays-Bas. Elle est très surprise par son succès et elle affirme être vue quand même dans 180 pays dans le monde. Et apparemment, elle gêne certains puisqu'il y a une de ses caméras qui a été détruite par les forces spéciales. Et puis en face, il y a Russia Today qui a aussi comme ça son live stream, puisque c'est l'expression consacrée. Le problème, évidemment, c'est de savoir, parce que les blogueurs peuvent aussi faire ça avec leur téléphone portable, par exemple, ou un peu n'importe qui. Le problème, c'est de savoir qui envoie ces images, comment, à quel dessin, quel plan. Et est-ce que l'internaute, qui est finalement hypnotisé par ce mot « live » qui apparaît en bien plus grand que sur les chaînes d'information continue, si l'internaute, il vérifie vraiment, comme un journaliste, quelles sont ses sources.
Sébastien Gobert, à Kiev, est-ce que vous, sur le terrain, vous êtes saisi aussi par ces images? Vous en percevez la force quand vous êtes sur la place Maïdan?
Oui, exactement. J'arrête pas de dire que bon, les images sont évidemment horribles, en particulier les trois derniers jours avec le bilan désastreux qu'il y a eu. Mais c'est une révolution, un mouvement de protestation incroyablement esthétique. Par exemple, mardi dernier, j'étais donc à l'hôtel Ukraina en amont de la place de l'Indépendance. Eh bien, vous savez, les policiers avaient investi environ un tiers de la place et il y avait le village de tentes qui brûlait. Et bon, vous savez que les protestataires, eh bien, bon, ils ont toutes sortes d'armes, ils ont aussi des pistolets, des fusils, mais ils ont aussi des armes assez rudimentaires comme des bâtons, des pavés et des feux d'artifice. Et donc, il y avait des feux d'artifice qui explosaient dans le ciel de temps à autre et ça avait des allures de fête nationale. Si vous voulez, tout cela est extrêmement esthétique et évidemment, ça marque évidemment les regards et les esprits.
Jean-Marie Charron, on reviendra plus longuement tout à l'heure avec vous sur cette question de savoir si les médias ont pris parti, mais quand même, je voudrais connaître votre regard spécifiquement sur ces images très spectaculaires, parce qu'elles sont porteurs dans nos têtes de plein de référents historiques. Il y a une espèce de mélange entre les images du printemps arabe, les chars à Prague, mai 68, enfin tout ça revient avec ces images de la place Maïdan. C'est très iconique, mythologique.
Oui, tout à fait. Donc déjà, je crois qu'il faut souligner ce qui a déjà été dit, c'est-à-dire c'est cette profusion, hein, c'est-à-dire d'images à la fois fixes et d'images animées. Et puis, le télescopage de deux choses, c'est-à-dire effectivement tous les symboles qui se superposent, ça peut être 68 pour les uns, ça peut être Prague, Budapest, la place Tahrir, etc. Et donc, la complexité, je dirais, de cette mobilisation des symboles, c'est qu'on ne maîtrise pas forcément comment ils induisent la perception de celui qui les reçoit. Et du coup, on peut s'interroger sur le fait de savoir est-ce que ça nous permet de nous représenter mieux les choses, certainement, mais en même temps, ça bloque certainement notre capacité d'analyse sur ce que nous voyons réellement. Et par exemple, en regardant la télévision hier et en regardant la plupart des journaux d'hier, j'ai été frappé par une certaine lecture. Par exemple, on sait qu'il y a une violence hier matin, puisque les manifestants ont repris du terrain. Pas d'image, pratiquement, de ce mouvement des manifestants en situation de violence. Des images des forces de répression tirant, tapant, etc., on en a beaucoup. Des images de victimes, il y avait une répétition des images hier de personnes qui étaient touchées, de personnes qu'on évacuait, des images de l'hôtel d'Ukraine, justement, où on voyait des morts, on voyait un pope en train de veiller ses morts, etc. Donc on voit bien que dans ce dispositif, que ce soit voulu ou pas, il y a un phénomène, il y a quelque chose qui nous pousse à l'empathie et qui nous empêche, en fait, par exemple, on nous a dit, il y a quand même une quinzaine de policiers qui ont été tués. Vous les avez vus ? Comment ? Dans quelles circonstances ? Pourquoi on en a ?
Donc c'est on énorme. Reste du côté des manifestants avec les images. C'est ça que vous voulez dire essentiellement.
Toutes les images, d'ailleurs, de très nombreuses images sont prises. On voit même des pieds de manifestants, etc.
Alors, on va faire réagir Sylvain Estibal et Gaël de Santis là-dessus. Juste pour illustrer notre propos, écoutez, c'est sur cette dimension un peu mythologique dans l'inconscient collectif de l'iconographie. Il y a un petit montage qui juxtapose un sujet de TF1 d'avant-hier et un sujet d'Europe 1. Il y a 46 ans.
Les barricades en flammes de la place de l'indépendance de Kiev. Vue du ciel, une ligne de feu qui sépare les manifestants anti-gouvernement des forces de l'ordre. Toute la journée, le face-à-face est tendu. Dans le camp de la protestation, on arrache les pavés pour en faire des munitions. Et là, ce sont des cocktails Molotov que l'on prépare. Les rangs de la police anti-émeute se renforcent. Les affrontements peuvent reprendre à tout moment.
Allô, Jacques Paris ?
Fernand Choisel, allez-y.
Allô, eh bien, je peux vous donner la signification des explosions que vous avez entendues. Ce
oui.
sont des espèces de grenades qui ont pour but d'incendier les barricades. En effet, la plupart des barricades ont été composées avec du bois. Et il y a déjà une barricade qui brûle et je vois un incendie qui se déclare de l'autre côté, de l'autre barricade. Et maintenant, les barricades sont en feu. À tout à l'heure.
À tout à l'heure, Fernand Choisel.
Écoutez, je prends le micro parce que je viens de la première barricade.
Oui.
Daniel Cohn-Bendit en 1968, hein, vous aurez reconnu. Sylvain Estibal, Gaël de Santis, pour prolonger ce que disait Jean-Marie Charon à l'instant. Est-ce que ces images, parce qu'elles sont très fortes, annihilent ou du moins réduisent la portée du reportage et de la réflexion journalistique derrière. Gaël de Santis.
Le reportage sert à montrer un peu l'état d'esprit des manifestants, regarder ce qu'il y a sur le terrain. Ça, c'est une façon de traiter l'information. Après, on le voit, toute la presse écrite, mais y compris même la presse télévisuelle maintenant, essaie d'apporter d'autres angles d'approche, regarder ce qui se passe du point de vue diplomatique, regarder quelles sont les difficultés économiques de l'Ukraine. Donc,
on est tellement fasciné par ces images qu'elles captent tellement notre attention que derrière, c'est difficile d'être disponible presque pour autre chose.
C'est vrai qu'il y a un spectacle, il y a des images qui sont fortes. De l'autre côté, c'est sûr qu'un rendu d'une réunion diplomatique, ça fait une photo avec 3-4 personnes aux cheveux grisonnants, en costume cravate. Oui, c'est tout de suite, quand on est en télé, beaucoup moins sexy. En revanche, dans la presse écrite, on voit qu'il y a quand même beaucoup de place qui est accordée à un autre type de traitement de l'information et pas seulement au reportage.
Sylvain Estibal.
Sur la violence, déjà, on a eu des photos quand même de policiers qui se faisaient frapper, malmenés. C'est vrai qu'elles n'ont pas tellement été reprises par les médias. Alors, c'est vrai qu'il y a peut-être une lecture un peu orientée, là aussi, de ceux qui du choix. Mais on a eu des photos, normalement, la veille des affrontements d'un policier qui se fait frapper, enfin, deux policiers qui se font frapper par des manifestants. Et c'est des images vraiment très, très violentes, parce qu'ils ne réagissent pas, en plus. Donc, et même perturbante presque, parce qu'on n'est pas habitué à voir des policiers comme ça recevoir des coups sans réagir. Donc, on a diffusé des images comme ça. Après, c'est vrai que l'image est un peu réductrice, évidemment, mais ce qui est quand même intéressant dans ce conflit-là, c'est que les manifestants sont des fois habillés comme des soldats. Donc ça pose des problèmes. On a même eu, nous, des fois, des photos sur lesquelles on a dû s'interroger pour savoir de quel camp il s'agissait sur l'image. Parce que de nuit, des gens casqués avec des armes, on en a vu, on ne savait pas si c'était la police ou les manifestants. Donc l'image peut aussi interroger, dès lors qu'on on la légende bien, qu'on indique que c'est un manifestant. Là, le voir que c'est des gens armés avec des boucliers identiques, avec des armes dans certains cas, ça interroge aussi sur qui sont ces manifestants, finalement.
L'Ukraine, les médias sont-ils partisans ou simplistes ? C'est le sujet ce matin du secret des sources sur France Culture et sur franceculture.fr pour tous vos commentaires, pour la réécoute et le téléchargement.
Le gouvernement russe a décidé de placer une partie de ses réserves issues du Fonds national de prévoyance dans des titres du gouvernement ukrainien, à hauteur de 15 milliards de dollars.
Vladimir Poutine, le 21 novembre dernier, signant avec Viktor Yanukovych le partenariat économique, ce fameux partenariat économique russo-ukrainien qui ancre Kiev du côté de Moscou et qui suscite aussi la colère des manifestants pro-européens. On vient d'évoquer la couverture de terrain, le poids des images. Je voudrais qu'on s'arrête maintenant sur les interprétations, les commentaires, avec un thème, là encore, simple, récurrent dans les analyses de la presse. Par exemple, là, c'est la une du Figaro ce jeudi, Ukraine de point le choc Est-Ouest. Donc là aussi, une présentation qui est très Est-Ouest dans la presse. Et là, je me tourne évidemment à nouveau vers Moscou, vers Marie Jégot du Monde en Russie. Quelle interprétation en Russie la presse donne-t-elle des faits? Est-ce qu'elle aussi, en Russie, elle donne dans le remake de la guerre froide?
Alors, elle est moins caricaturale que la télévision. On a plus de pluralisme et d'informations dans la presse. Mais vous voyez, j'ai là sous les yeux la presse d'aujourd'hui, j'ai le quotidien Commerçante, par exemple, qui ne fait pas état, ni dans son titre, ni dans le sous-titre, qu'il y a quand même eu 77 morts. Donc son titre, c'est que Yanukovych, il est temps que Yanukovych se représente aux élections. Et le sous-titre, c'est l'Occident accentue la pression sur le président ukrainien. Voilà, donc là on se rend compte que l'aspect de la violence et des combats n'est pas beaucoup évoqué. Pareil pour le journal gouvernemental Rassiska Gazeta, le journal russe, qui lui en une se demande si la Russie a une architecture ou pas, et l'Ukraine est reléguée à la 11e page. Et donc pour beaucoup de journaux, oui, on voit que ce qui les intéresse, c'est la politique, les discussions, qu'est-ce qui s'est passé avec la Troïka européenne. Il n'y a pas tellement d'empathie, à part quelques intelligents qui le disent et le font savoir, mais il n'y a pas d'empathie pour cette histoire ukrainienne, alors que l'Ukraine est quand même le pays frère de la Russie, puisque en Ukraine, on parle aussi bien le russe, d'ailleurs sur la place Maïdan aussi, même si on est nationaliste, on parle aussi bien le russe que l'ukrainien. Il n'y a pas, que je sache, de sentiment russophobe. Il y a un rejet de Poutine et du système et pas de sentiment.
Mais est-ce qu'on y voit un choc Est-Ouest dans la presse russe?
Oui, évidemment, il y a bien sûr, puisque cet aspect est en permanence attisé par le Kremlin, c'est-à-dire le Kremlin, ce qu'il dit officiellement, c'est les Européens font de l'ingérence, c'est très mauvais. Et vous voyez, ce soir, quand il y a eu cet accord entre l'opposition et Yanukovych, l'accord parrainé donc par les diplomates européens, dont notre ministre des Affaires étrangères, M. Fabius, eh bien, il y avait un émissaire de Moscou, M. Loukine, qui n'a pas signé le document. Pourquoi il n'a pas signé le document? Parce que sur le document, il est dit que les morts, toute cette impunité qu'il y a en général en Ukraine, et c'est ce pourquoi les gens sont sur la place, eh bien, il y aura une enquête qui sera parrainée par l'Union européenne, le Conseil de l'Europe, et ça ne peut pas plaire à Moscou. C'est perçu comme de l'ingérence.
Gaël de Santis, l'Humanité, est-ce que vous avez la sensation qu'on est dans une analyse simpliste quand on dit c'est une bonne vieille confrontation Est-Ouest? Ou est-ce que finalement c'est une bonne grille de lecture?
Chez les manifestants, je pense, et c'est en partie la raison pour laquelle il y a aussi des manifestations à l'est du pays, il y a une aspiration à une transformation de l'Ukraine. Après, les implications diplomatiques sont indéniables. Pour suivre les institutions européennes, ça fait des mois que dans les conseils européens, très souvent, il y a un point sur ce partenariat oriental auquel a tourné le dos Viktor Yanukovych le 21 novembre. Donc il y avait une volonté de l'Union européenne de quelque part d'avoir des accords avec plusieurs pays sur ces marches orientales. D'ailleurs, le 21 novembre, il n'y a pas que l'Ukraine qui tourne le dos. Il y a d'autres pays qui, par exemple l'Arménie, avaient décidé de rejoindre aussi l'Union douanière dès le mois de septembre. Donc on voit qu'il y a une lutte d'influence qui existe. Après,
mais encore une fois, parce qu'il y a un paysage global où on a la sensation qu'il y a un discours dominant, politique d'ailleurs aussi, intellectuel, BHL, disant il y a les bons manifestants, puis de l'autre côté, il y a le méchant Yanukovych, et donc du coup, on a les personnages du western classique, et donc c'est Est-Ouest. Est-ce que ce n'est pas un peu simple?
C'est très très simpliste. Je parlais justement, je pense que l'aspect manichéen qu'on a eu, c'est Maintenant, les médias essaient de montrer tous les aspects. Mais avant le 21 novembre, là, il y avait vraiment une vision manichéenne de l'Ukraine, où il y avait les mauvais Yanukovych avec ses oligarques, ce qui est d'ailleurs une
partie réalité. De la réalité, oui.
Et par contre, il y avait une opposition qui était héroïsée autour du parti de Yulia Tymoshenko, autour de Klitschko, comme si de ce côté-là, il n'y avait aucun oligarque, que tous les hommes d'affaires vendaient des produits bio avec le label commerce équitable. Je veux dire, et là, en faire des héros de la démocratie me paraît un peu forcer le trait. Lors des premières manifestations en décembre, on voit qu'il y a des moyens aussi qui sont injectés. Il y a une scène qui est installée place Maïdan, des écrans géants. Le collègue qui était sur place me disait que la scène était aussi grande que celle de la fête de l'UMA. Nous, on met une semaine à la montée. Ça veut dire que quelque part, aussi là, il y a des moyens. Il y a des moyens qui sont
et de la logistique et des moyens derrière. On va remercier Sébastien Gobert de RFI à Kiev, je crois que l'on doit libérer. Marie Jégot du Monde à Moscou, Sylvain Estibal de l'AFP, Gaël de 106 de l'Humanité. Reste avec nous ce matin dans le secret des sources qui est toujours à commenter sur franceculture.fr. Et dans quelques secondes, je me tourne à nouveau vers Jean-Marie Charon. Le tout après cette version mode ukrainienne 2014 du classique Bella Ciao. Une reprise qui fait un tabac à Kiev. 1 million de vues sur YouTube. La journaliste ukrainienne Olga Koutourianets chante Vitya Chiao, autrement dit Viktor Yanukovych. Au revoir. Clip vaut aussi le coup d'œil. On vous mettra évidemment le lien sur le site du Secret des Sources sur franceculture.fr. Jean-Marie Charon, est-ce qu'on peut dire que face à une situation de ce genre, les journalistes sont forcément d'un côté ? C'est-à-dire que les ingrédients sont réunis, sinon pour une partialité, du moins pour une asymétrie dans le traitement ?
Le problème de l'asymétrie se pose toujours lorsqu'on a affaire à une crise très chaude et par ailleurs, en plus, lorsqu'il y a des situations de violence très importantes, il faut être quelque part. Et comme ça a été bien dit par plusieurs journalistes, les journalistes sont où il y a une certaine ouverture, un certain accueil. Donc ensuite, il y a comment on fait à l'intérieur de cette situation-là. Alors c'est vrai que tout porte à ce moment-là une certaine forme d'empathie parce que les gens qu'on interviewe, ce sont les gens qu'on a autour de soi. Les gens qui témoignent sur les événements, ce sont aussi les gens qu'on a autour de soi. Et puis surtout, lorsque plusieurs jours de suite, on subit les mêmes violences, la même fatigue, on entendait tout à l'heure dans un des reportages qu'un journaliste était
secouru
par des manifestants. Donc il est clair que ça développe cette situation.
Ce n'est pas nécessairement un choix éditorial, c'est une situation de facto.
Il y a une asymétrie de fait. Alors ensuite, c'est comment on fait avec ça ? Et effectivement, je pense qu'il y a des asymétries choisies. Certaines rédactions disent on se met du côté du juste. Quelque part, c'est la position de BHL. C'est-à-dire,
rappelons quand même que Viktor Yanukovych a été élu démocratiquement
tout à fait.
Par une élection
élection considérée comme enfin correcte du point de vue démocratique. Hein. Voilà, c'est juste à rappeler quand même.
Mais on en a entendu l'illustration tout à l'heure. Sébastien Gobert dit pas il y a le juste ou le pas juste, mais il y a le crédible ou le pas crédible. Mais on voit bien que c'est pas si simple que ça que de sortir de cette vision un peu asymétrique. Donc je crois qu'il y a un enjeu que les rédactions doivent affronter, c'est de savoir jusqu'à quel point ils tentent ou ils recherchent un certain équilibre dans le traitement. Ce qui me paraît effectivement être la position la plus intéressante, parce que le problème, ce n'est pas le sentiment des journalistes, ce n'est pas le consensus chez les journalistes, c'est le droit du public à avoir le maximum d'éléments et à pouvoir se faire son idée lui-même. Alors,
qu'est-ce qui, pour vous, permettrait justement d'accéder à plus de complexité? Qu'est-ce qui doit être mis en évidence? Qu'est-ce qui doit être recherché?
Alors là, je crois qu'effectivement, vous avez raison. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec cette complexité? Or là, on a vraiment à faire à la fois une situation qui est complexe sur le terrain et un pays complexe. Et je crois que c'est les deux aspects qui doivent être au centre du travail des journalistes. Je discutais avec plusieurs spécialistes de la région, là, ces jours-ci, et ils me disaient, sujet de complexité qui n'est pas traité, finalement, dans la chronique des événements, c'est qui sont les gens sur place ? C'est-à-dire, qui est là ? À la fois, les journalistes sont au milieu de ces gens, mais qui sont-ils ? Mais pas simplement, est-ce que ce sont des groupuscules ou est-ce... Et or, là, on voit qu'il y a une espèce d'atermoiement dans
est-ce
la présentation.
Est-ce que c'est des jeunes, des vieux, des femmes, oui. Des hommes, des ouvriers, oui. Des salariés, etc.
Donc, on a cette espèce d'atermoiement. Et en fait, ce dont on a besoin, c'est d'essayer de comprendre à la fois qui sont les gens sociologiquement, qu'est-ce qui les anime, bien sûr, idéologiquement, mais aussi comment les choses se structurent, comment ça vit, tout ça. Est-ce qu'il y a des gens qui émergent de tout ça? Est-ce qu'il y a des modes d'organisation qui émergent? C'est d'autant plus important qu'on ne voit pas très bien qu'est-ce qu'il y a comme solution politique derrière, quoi. Et puis l'autre aspect, je pense, du travail sur la complexité, c'est qu'est-ce qu'on fait aussi avec la complexité de ce pays? Alors on dit c'est un pays qui est divisé, qui est au bord de l'éclatement. Mais en même temps, qu'est-ce qu'on en a comme analyse ? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans les régions de l'Est ?
Ailleurs que place Maïdan.
Voilà. Qu'est-ce qui se passe, par exemple, à l'Est ? On a même pas des reportages, de temps en temps, une phrase d'un mineur. Mais en réalité, l'Est, c'est toute une partie de la population. C'est aussi tout l'arrière-plan économique de la situation ukrainienne.
C'est en partie l'Est qui finance l'Ouest du pays.
Qui fait vivre le pays sur le plan de l'économie.
Peu, mais...
Oui. Et effectivement, l'Est, c'est une région où il n'y a pas de contestation politique, mais où il y a des mouvements sociaux, où il y a des syndicats qui se battent de temps en temps. Or, ça, on n'en entend pas tellement parler. Quoi.
Alors, par exemple, photo à l'AFP, vous disiez, ils sont tous sur la place Maïdan, et on a renforcé, etc., Sylvain Estival. Est-ce qu'il n'est pas temps là, d'envoyer des photographes, je ne sais pas si c'est déjà fait, mais dans d'autres villes d'Ukraine, pour voir effectivement ce qui se passe dans le reste du pays ? Est-ce que ce n'est pas une façon de répondre à cette question de la complexité ?
Oui, c'est sûr. On a un réseau de pigistes qu'on est en train de mobiliser justement ailleurs. Mais c'est vrai qu'en photo, on va quand même à l'endroit où il se passe des choses. C'est vrai que si ça ne bouge pas en province, et actuellement c'est relativement calme d'après ce que je sais, en photo, on n'aura pas grand-chose à faire. C'est plus un sujet de fond à ce moment-là qu'il faut lancer, mais c'est vrai qu'il va falloir passer à des choses peut-être plus en profondeur à présent. Dès que la situation va revenir un peu au calme, il va falloir sans doute creuser un peu tout ce qu'il y a derrière. Nous, en photo, on est quand même un peu lié à aux choses qui se passent. S'il se passe rien dans une ville, envoyer un photographe là-bas, ça n'a pas vraiment de sens.
Mais on nous dit
l'image.
Qu'il se passe des choses quand même. Enfin, alors encore une fois, via Internet, alors c'est toujours est-ce que c'est fiable ou pas ? Mais à Lvov, à Odessa.
On a eu quelques images dans des villes comme ça, par des photographes indépendants enfin, qui travaillent pour nous. Mais jusque-là, on n'a pas eu des choses aussi spectaculaires et aussi marquantes que dans la capitale, hein, pour être honnête.
Gaël de Santis, sur cette nécessité d'aller ailleurs que place Maïdan.
Mais c'est...
Parce que Maïdan, c'est bien, mais en même temps, c'est un petit point de l'Ukraine. Enfin...
Lors de la dernière fois que notre reporter est allé, il est allé justement dans l'est du pays pour voir aussi que ce qui se passe place Maïdan n'est pas forcément ce qui répond toujours aux aspirations de tout le pays. D'autant plus que justement, dans l'est du pays, c'est une grande partie de l'appareil industriel et dont le premier partenaire commercial est justement la Russie. Et de ce fait-là, voilà, il y a, ça permet aussi de voir les craintes que pouvait susciter cet accord avec l'Union européenne. Donc oui, il y a nécessité d'aller ailleurs. Pour ça, ça demande des moyens. Et il est vrai que c'est compliqué pour certaines rédactions de dire « Ben non, le journaliste va quitter Maïdan alors qu'il peut se passer quelque chose pour se retrouver à quelques centaines de kilomètres de là et manquer quelque chose. »
On a vu que les médias avaient commencé à s'intéresser à la complexité des profils dans l'opposition, hein, avec pas mal de reportages, notamment sur Svoboda, les groupes d'extrême droite. Mais de l'autre côté, c'est vrai qu'on est complètement devant le vide, enfin, sur qui est avec Yanukovych, quels sont ses réseaux de soutien. Après tout, il a eu 49% des voix, il a été élu puisqu'il était devant Yulia Tymoshenko la dernière fois. Donc, il y a bien des gens qui sont derrière lui malgré tout. Et là, on a l'impression de ne rien savoir, de ne rien comprendre. Est-ce parce que les médias ne s'y intéressent pas suffisamment ?
Il y a quelques informations qui nous arrivent par des agences de presse, plutôt russes d'ailleurs, sur ce qui se passe
au sein du pouvoir.
Au sein du pouvoir, en Crimée, où il y a des gens commencent à dire qu'il faudrait peut-être, si jamais le pays s'effondre, rejoindre la Russie. Il y a eu une intervention du président du Parlement régional de Crimée l'autre jour, disant cela, et qui montre qu'il pourrait y avoir sécession du pays si la chose empire. Mais oui, il y a besoin d'aller voir. Mais après, on dépend des sources sur place. Et il est vrai que le gouvernement ukrainien n'est pas le plus communicatif.
Ouais. Marie Jégot, Le Monde à Moscou, là-dessus ?
Oui, alors là-dessus, évidemment, la complexité, oui. Peut-être que les reporters ne font pas tout à fait leur travail, ils devraient aller plus dans les régions de l'Est. Je voudrais quand même dire une évidence. On est obligé d'aller sur la place Maïdan couvrir les protestataires anti-Yanukovych. Parce que c'est eux, ils ont quelque chose à dire. Les autres, on ne peut pas, c'est pas qu'on ne veut pas savoir ce qui se passe chez Yanukovych, c'est un pouvoir opaque. Donc ces gens, c'est très difficile de les atteindre. Une fois que vous les atteignez, ils ne vous disent absolument pas la vérité. Ils vous mènent en bateau, ils vous enfument. C'est ce qu'il fait d'ailleurs avec l'opposition depuis le début. C'est pourquoi qu'on en est là. Ça fait 3 mois que ces gens sont sur la place, attendent quelque chose qui ne vient pas. Et lui, la seule chose qu'il veut, c'est garder son pouvoir. Alors on peut dire après, empathie, pas empathie, symétrie, asymétrie. Je ne vois pas pourquoi il devrait y avoir une symétrie. Il y a un problème là profond de valeur et je peux vous garantir que dans les régions de l'Est, moi j'étais à Kharkov au mois de novembre, les gens n'en peuvent plus de ce pouvoir. Et à l'Est et au Sud, ils n'en peuvent plus. C'est épouvantable de vivre ce qu'ils vivent. Il n'y a aucune justice, une corruption incroyable, pas de perspective, des petits salaires. L'Ukraine était en 91 à peu près avec le PIB de la Pologne. Aujourd'hui, c'est le pays le plus pauvre de l'espace européen, Moldavie exceptée. Et les gens voient bien ça. Un combat pour la dignité, c'est une histoire de valeur. D'un côté, vous avez des gens qui n'ont rien à proposer, des gens incompétents, un clan imbécile qui, en fait, s'est rempli des poches quand même. Ils ont des comptes partout, en Europe d'ailleurs, avec des centaines de millions de dollars. Et le pays est vraiment à la ramasse, là. À la ramasse, et il va y avoir probablement un défaut. Il se peut qu'il y ait un défaut. Enfin, ça va être très difficile de remonter la pente.
C'est de fait l'élément clé. Enfin, c'est le fait que l'Ukraine est au bord de la faillite. C'est aussi ça l'élément déclencheur de l'histoire. Mais de ce point de vue, je ne sais pas, si Yanukovych a choisi le partenariat économique avec Moscou plutôt qu'avec Bruxelles, c'est peut-être aussi parce que la proposition financière de Vladimir Poutine était plus intéressante que la proposition européenne.
Elle est plus intéressante puisqu'il n'a pas à rendre de compte. Lui, c'est ça qui l'intéresse. Il ne veut pas rendre de compte. Donc cet argent sera englouti ici ou là dans l'énorme dette de Naftogaz, la société gazière, qui est d'une opacité sans nom. Ces gens ne veulent pas vous parler, ça ne les intéresse pas. Et comme a très bien dit mon collègue de RFI, quand on va voir les manifestants pro-Yanukovych, ils sont très agressifs, ils sont souvent très pris de boisson, ils sont désespérés. Pourquoi ? Parce que la plupart, il y a très peu de gens qui y croient, à ce pouvoir cynique, à ce pouvoir. C'est pas un hasard si ces gens sont allés, les manifestants anti-Yanukovych sont allés risquer leur vie sur la place. Ils n'en peuvent plus. Et je voudrais souligner aussi qu'il faut qu'on arrête de dire que sur la place, on ne sait pas qui il y a. Alors, encore une fois, peut-être que les médias français ne font pas leur boulot, mais ça a été expliqué maintes et maintes fois. Sur la place du Maïdan,
toute la société ukrainienne est représentée. Alors, il faut arrêter avec cette histoire des fascistes, des nazis, etc. Il y a des partis d'extrême droite en Ukraine, oui. Il y en a aussi en Russie. Il y en a même en France, voyez-vous. Donc, je vois pas là ce que c'est que ce perpétuellement traîner cette espèce de vieux poncif que les Ukrainiens seraient des antisémites, seraient des nazis en puissance, etc. Tout ça est ridicule. Oui, il y a un mouvement. Oui, il y a des extrémistes. Oui, comme on a laissé pourrir la situation, c'est dangereux. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Il y a un mouvement Svoboda, en effet, c'est une sorte de FN avec lequel, d'ailleurs, il a de très bonnes relations. Il est représenté au Parlement. Que je sache, son leader n'a pas, depuis ces dernières années, n'a pas proféré de slogans antisémites ou je ne sais quoi. Il y a d'autres gens, il y a d'autres aspirations. Et je pense que c'est un mouvement très profond et que l'histoire est loin d'être terminée.
Marie Jégo à Moscou. Merci beaucoup. Merci à tous. C'est l'heure du mot de la fin dans Le Secret des Sources. Et comme toujours, il revient à Yacine Bouzard. L'Ukraine, tableau à plusieurs faces, question d'optique, de point de vue.
Regarde ce tableau. Si tu es disposé à droite ou à gauche, tu ne le vois pas de la même manière.
Ah ouais ? Ça me fait penser à la situation en Ukraine.
Ah bon ? Explique.
Bah, quand tu es à l'ouest, tu entends ça.
Depuis le début de la crise en novembre, les Occidentaux n'ont eu de cesse d'accuser Moscou de faire pression sur Kiev pour maintenir l'Ukraine dans son giron. Des personnalités politiques européennes, comme l'ancien chef de la diplomatie allemande Guido Westerwelle ou encore américaine, sont allées jusqu'à rejoindre les manifestants d'opposition à Kiev.
Et si tu te déplaces vers l'Est, eh ben ça donne plutôt ça.
Je ne peux qu'imaginer la réaction de nos partenaires européens si au milieu d'une crise en Grèce ou tout autre pays, notre ministre des Affaires étrangères se mêlait à un rassemblement anti-européen et poussait les gens à agir. C'est tout simplement inacceptable et impossible pour nous.
Ah oui,
je comprends. Et si tu veux avoir un éclairage, disons, objectif de la situation, tu te placerais où ?
La guerre en plein centre de Kiev.
Et bien sûrement pas le nez collé à l'événement.
Des morts et des blessés.
Bon, ça c'est juste la vie de Yacine Bouzard. Marie Jégo, Sébastien Gobert, Gaël de Santis, Sylvain Estibal, Jean-Marie Charon, Éric Chavroux étaient ce matin dans Le Secret des Sources. Un grand merci à tous. Ukraine, les médias sont-ils simplistes ou partisans ? Comme toujours, c'est à vous de jouer. Vos commentaires, vos questions, vos critiques sont les bienvenus sur franceculture.fr où Le Secret des Sources est évidemment aussi en réécoute et en podcast. Notez que tout à l'heure à 12h45 dans Affaires étrangères, Christine Ockrent reviendra sur cette question de l'opposition Est-Ouest dans la crise ukrainienne. Dans quelques minutes après le journal d'Anne-Laure Chouin, réplique sur France Culture, ce matin du changement dans l'école. Alain Finkielkraut reçoit Bérénice Levet et Antoine Pro. Prenez soin de vous.
On est obligé d'aller sur la place Maïdan couvrir les protestataires anti-Yanukovych. Parce que c'est eux, ils ont quelque chose à dire. Les autres, on ne peut pas, c'est pas qu'on veut pas savoir ce qui se passe chez Yanukovych, c'est un pouvoir opaque.
C'est des images, on va dire, inédites. On n'a jamais vu un conflit comme ça. Enfin, j'ai pas de référence, finalement. Je pense que la Bosnie, c'était pas comme ça non plus. C'est vraiment cette image charbonneuse, ces flammes, ces cocktails Molotov. On a des lance-pierres, il y a des engins explosifs de côté manifestant. Enfin, c'est très, très noir. C'est des images apocalyptiques.
Je suis contre Viktor Yanukovych, contre son gouvernement, contre les violences policières, contre les abus du système judiciaire, contre la corruption. Et, si vous voulez, ça, c'est quelque chose pour lesquels beaucoup de journalistes ont fait une certaine empathie.